grand monde, en dehors des Gueules et des Hégéliens éventuels, qui peuvent prétendre avoir d'une part une connaissance exacte de Dieu et d'autre part donner à Dieu, je dirais, toutes ses chances d'exister. Existe-t-il encore un mystère divin? Je ne crois pas, puisqu'enfin, ça me paraît assez clair, je crois qu'il n'y a plus de mystère, le mystère est évacué. À partir du moment où le divin est totalement ramené à l'homme, bon, ce serait à creuser. Existe-t-il encore une théologie? Sûrement pas, je crois, parce que la révélation n'est plus tellement regardée en tant que contact, enfin, oui, contact avec une personne qui nous parle, mais elle est regardée comme acte déjà en soi de Dieu. Acte de l'exister de Dieu. Autrement dit, il n'y a plus de traitement possible par désenveloppement possible, ni même nécessaire au niveau théologique. Ce serait à expliciter, c'est une opinion qui est sûrement en contradiction avec des courants actuels qui ont au contraire tendance à l'utiliser. Alors, je crois qu'on n'a pas le temps. Il y avait des questions que je voulais me poser. S'agissait-il d'une gnose? Je crois oui, je crois qu'on peut répondre quand même oui. C'est quand même une philosophie et ce que certains ont appelé une théologie qui assure le salut de l'homme par la connaissance et non pas par la grâce. S'agit-il d'un panthéisme? Ça dépend des définitions du panthéisme. Hegel s'en est violemment défendu. Je crois qu'il y a quand même de fortes présomptions pour qu'on puisse parler de panthéisme, puisque Dieu ne peut parfaitement et totalement exister qu'à travers la créature. Sinon, il est prisonnier de la créature. Tant que la créature ne s'est pas attelée à cet effort dialectique, Dieu en est prisonnier. Et Dieu ne peut pas vivre totalement sa vie. Alors, Hegel dira, ce n'est pas un panthéisme parce que je respecte à l'aide de ma synthèse dialectique, je respecte les deux entités que sont Dieu et l'homme. Alors c'est à voir. Et puis il aurait fallu voir comment Hegel est en fait, peut vraiment être regardé comme la source de tous les athéismes qui lui ont succédé. Alors je jette très très rapidement la transcendance de l'histoire. Bon, on la retrouve dans le marxisme. Alors en fait, qu'on retrouve d'ailleurs par plusieurs aspects de l'hégélianisme, l'absolu de la raison, le positivisme, le primat de la négation, Nietzsche s'y appuie, le primat de la conscience, on le retrouve dans la phénoménologie, on le retrouve dans un autre domaine chez Freud, primat du mouvement, on le retrouve dans l'évolutionnisme, la liberté à travers la négation, on le retrouve dans l'existentialisme, etc., etc., jusqu'à l'anarchisme. Je crois que ce serait sûrement très intéressant à regarder, mais je crains de dépasser le temps. Il y a peut-être même sûrement beaucoup de questions.
Merci bien. C'est des questions à poser. Moi, je ne connais rien du tout à l'égalisme, c'est pas un long. Est-ce que la dialectique... compris maintenant? Est-ce que la dialectique, on peut la comparer à un processus d'assimilation par lequel je grandis en tant que vivant? Et ce processus d'assimilation, est-ce qu'il correspond à une prise de conscience progressive?
Je dirais en partie oui, en partie non. En partie oui, parce que il y a une prise effectivement de conscience progressive, je crois que c'est très clair. La conscience a beaucoup, beaucoup d'importance pour Hegel, c'est même le point de départ. Cette prise de conscience progressive, je crois, va de pair avec une purification de la connaissance. Donc il y a quand même quelque chose de très proche entre conscience et connaissance. Je crois par contre que on peut pas, je ne sais pas, père, vous me contredirez, il me semble que on ne peut pas complètement la comparer à une assimilation, en ce sens que l'assimilation ne respecte pas l'autre. Alors que la dialectique, et c'est ça je crois, le grand souci d'Hegel, d'une certaine façon, il nie l'autre, mais d'une autre, il le respecte à partir du moment où sa synthèse, son mouvement dialectique de synthèse, a besoin que continuent à exister de façon concomitante les deux opposés.
Juste pour
Oui.
c'est que l'assimilation ne respecte pas l'autre, sauf dans l'assimilation, sauf que dans le cas de l'assimilation végétative.
Alors, je pensais à l'assimilation végétative. L'assimilation dans le sens d'une assimilation intellectuelle, oui, intentionnelle, je crois pas. Ou alors on pourrait être amené à comparer, il faut voir, on pourrait être amené à comparer cette création synthétique issue de la dialectique avec la création du concept au sens aristotélicien du terme.
C'est une unité.
C'est une unité. Voilà. Oui.
Il y a une unité dans la dualité.
Oui.
Parce qu'au fond, le mouvement dialectique n'est distinct.
Oui.
Si on avait l'unité, simplement.
Il faut respecter les deux opposés, les deux
c'est
membres
opposés.
C'est pour ça
qu'il s'appuie sur la Trinité.
C'est pour ça qu'il s'appuie sur la Trinité. Et c'est pour ça qu'il refuse d'être considéré comme un panthéiste en disant « Mais je continue à respecter les deux entités. »
Vous êtes un panthéiste trinitaire. Oui. Tous les autres panthéismes prennent de la création, mais là c'est un panthéisme trinitaire, c'est une espèce de panthéisme au niveau de la très sainte Trinité,
oui.
J'ai l'impression.
Sûrement.
Il a été très saisi par ça. Croyez pas que
c'est son point de départ.
C'est quand même un point de départ théologien.
Oui.
Et toute sa philosophie provient de ce point de départ du théologien, où il a été insatisfait de la théologie condamnée, considérant que cette théologie n'était pas.
Il a sûrement été fasciné par la Trinité, par le mouvement trinitaire.
Je crois.
Et s'il était parti de Dieu un, simple, il n'y aurait pas eu cette fascination, mais il est parti directement de Dieu trine dans une fécondité constante. Et il fallait donc que sa philosophie dépasse, je pense, le niveau de l'être qui pour lui est un niveau statique, et tout de suite trouver un moyen à travers la dialectique. Il fallait que ce soit un traitement de données à travers l'homme, je dirais.
C'est la vie.
C'est la vie, oui.
La vie de la très sainte Trinité.
Qui est donnée par l'homme, en fait.
C'est
ça qui est terrible.
Hein? Oui, c'est ça. Hein? Il se met à la place de la très sainte Trinité en regardant l'homme.
Ouais.
Je me demande si pour Hegel, l'autre existe réellement.
Il en a besoin.
Système, oui, mais si on sait pas le système, est-ce que l'autre existe réellement?
Oui, il existe comme. Tu existes comme ma négation, et donc j'ai réellement. Tu existes comme ma limite, et j'ai besoin de toi, comme autre.
Oui, mais si on parle personne à personne, quelqu'un est une personne, je suis une personne.
Oui.
Mais si je suis pour lui une limite, lui n'est pour moi une limite aussi.
Oui, et comme autre, je dirais que comme autre personne. Je pense que tu n'auras ton intérêt le plus profond est de rentrer dans mon immanence dialectique pour pouvoir recevoir de moi à travers ce mouvement dialectique ta vie la plus profonde.
Oui, il me semble que tout son raisonnement peut être vrai. Dans la spéculation seulement, mais objectivement, ça ne peut pas être.
Ah ben, on est dans la spéculation.
Oui, mais objectivement.
Au sens aristotélicien, on a complètement dérapé. Oui, mais... On a complètement dérapé.
C'est intéressant de voir qu'au départ, le métaphysiquement, il faut un sophisme. Enfin, il y a un sophisme.
Oui.
Il me semble que par rapport au problème de l'être et du non-être.
Oui.
Ne voyant l'être que comme quelque chose de purement logique, c'est-à-dire d'une pure catégorie de la pensée, ça lui permet de poser, par rapport au problème du possible, entre l'être et le non-être, c'est-à-dire le possible, cette espèce d'orientation double, qui est au-delà des deux, de la substantialiser. C'est-à-dire de la voir, c'est-à-dire que nous, dans une philosophie réaliste, l'acte, c'est l'acte d'exister, qui c'est le jugement, ceci existe. Tandis que là, comme l'être, l'acte et le transcendant chez Hegel sera le possible.
Mmh.
Ouais. Et le possible devient l'alpha et l'oméga. À partir de là, c'est ça le sophisme, au fond, à l'origine, non ? C'est-à-dire, Dieu ne peut rentrer dans la création, être assimilé à la création,
oui, sûrement,
que parce que le possible est, est constitué chez Hegel comme l'état actuel, comme... Est-ce que c'est pas ça?
Oui, 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 c'est sûr.
Une logique sur l'état
physique, c'est sûr. Oui, sûrement.
Et cela, c'est pas possible. On ne peut pas en sortir si on ne dit pas qu'au départ, il y a un acte, il y a l'acte d'humilité de l'intelligence qui veut dire que ceci est.
Ah oui, oui, sûrement.
Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'humilité. Je ne sais pas ce que serait l'humilité, Marie-Claire. Ça, c'est très visible. Mais très bien, parce que par rapport à la Vierge Marie, c'est une humilité remarquable.
Est-ce qu'on peut dire que tout le système de Hegel est subjectif, c'est-à-dire puisqu'il s'intéresse à l'immanence?
Je crois qu'on peut le dire. Lui s'en défendra en disant qu'il est, en disant qu'il présente un réalisme subjectif.
Au-delà de la distinction voilà. Sujet-objet.
Oui, il est au-delà. Quand on parle de sujet et d'objet, on est encore un petit peu au ras des pâquerettes. Hegel nous permet de nous situer un petit peu au-dessus. Et justement, en dépassant ces deux oppositions entre sujet et objet par le mouvement de ma pensée qui les synthétise, qui les assume synthétiquement dans une synthèse dialectique. Mais c'est un mouvement continuel. Je ne pense pas qu'on puisse démarrer en disant, voilà, à partir d'aujourd'hui, je deviens hegelien, je m'arrête dans 5 minutes. Non, c'est toute une vie.
Est-ce que dans ces cas-là, on peut dire qu'il y a une nécessité de vivre en communauté?
Il a loué les moines, justement. Les moines solitaires qui peuvent se recueillir justement en eux pour pousser à fond cette épuration dialectique de leur intelligence.
Donc, il condamne toute politique, alors ?
Non, il
est un Prussien.
Il a été très marqué justement par l'échec politique, par la Révolution française et par le marasme prussien, par ces oppositions constantes qu'il constatait au sein de la politique. Il ne la condamne pas, je pense qu'au contraire, il la dépasse. Enfin, on ne peut pas dire beaucoup d'autres choses, à mon avis. Il la dépasse, il est toujours au-dessus. Donc, d'une certaine façon, il assume tout, il assume la totalité.
De notre côté, il est fasciné par la politique parce qu'il y a toute une description de Napoléon
oui, que j'ai pas lu.
Qui finit par assimiler toute l'Europe.
Oui.
Il est fasciné par la personnalité de Bonaparte.
Oui.
Et dans ce passage-là, il exerce la politique.
Plus encore, parce que tout se termine par l'État prussien. Qu'il sonne comme lui, c'est lui qui l'a. Je crois que c'est quand même lui en définitive.
Ah oui, au niveau structure, c'est l'État prussien, mais au niveau de la vie, c'est personnage.
Oui, c'est comme personnage. Et ce n'est comme personnage. Et comme personnage, ce n'est pas un dernier point. C'est encore un aspect descriptif du personnage. Tandis qu'il se termine dans une espèce de dialectique qui va plus loin. Le personnage reste encore quelque chose d'individuel. Oui, la représentation individuelle qui ne serait pas le but dernier de l'esprit.
Hegel est en fait à la fois le couronnement de Dieu et le couronnement de la société. Les deux.
Oui, c'est trinitaire.
Oui.
Évidemment, il ne se situe pas très bien à savoir s'il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais c'est en fait la synthèse 3.
Il est sûrement les trois. Enfin,
je crois qu'il est les trois.
Sûrement.
Hegel dit que tout le monde peut se reposer dans ce système philosophique, mais que, comme c'est toujours en mouvement.
Écoute, je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que sa lecture n'est pas très reposante.
Est-ce qu'on peut fixer un point de départ à cette dialectique? Ou est-ce qu'au fond, on est devant un cercle continue, qui perpétuellement en mouvement et perpétuellement en repos.
Il me semble que c'est un cercle continu, mais dans lequel, je dirais, on peut accrocher son wagon à n'importe quel endroit.
Oui.
En fait, on peut décider du jour au lendemain, je dirais, de devenir hégélien en s'en prenant tel qu'on est et en rentrant dans son dans ce mouvement continuel. Autrement dit, avec une intelligence qui est déjà plus ou moins épurée, qui est déjà plus ou moins proche du bon, dans le cas de Dieu, d'une connaissance de Dieu. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous...
Concrètement, qu'est-ce que je dois faire pour devenir hégélien?
Je crois fermer Aristote sur moi. Utiliser Aristote pour le dépasser. Oui, démarrer avec ce que tu as, c'est-à-dire Aristote. Et oui, exactement. Et ne pas le nier, en fait, mais le dépasser dans une première synthèse dialectique qui inévitablement t'amènera plus loin ensuite.
Une fois synthèse que... dialectique d'Aristote avec quoi?
Aristote regardant l'autre comme extérieur à toi, tu peux prendre conscience tout d'un coup que non, ça n'est pas suffisant, qu'il faut aussi te regarder toi en même temps. L'autre est ta négation et tu es la négation de l'autre. Autrement dit, prendre tout d'un coup conscience qu'il y a besoin d'effectuer en toi cette synthèse dialectique entre l'autre que tu touches et toi-même.
Non. Je voir concrètement ce que c'est que cette synthèse dialectique. Si on peut le voir.
Je crois en fait qu'on y est très souvent dans la dialectique, sans le savoir. C'est pour ça qu'on a du mal à savoir ce dont il s'agit, parce qu'on y est complètement, malheureusement. Oui. Je ne sais pas. Juste pour terminer, par exemple, cet exemple qu'il prenait de l'étude scolastique. Très souvent, on raisonne par rapport à tel ou tel mouvement de pensée que l'on reçoit en disant, bon, c'est bien, mais je pense autre chose. Donc, dialectiquement, je vais essayer de faire la synthèse. J'expulse rien, mais dialectiquement, je vais essayer de progresser à travers une synthèse. On est très souvent dans cette dialectique. Il me semble.
Peut-on situer la pensée hélienne par rapport à ce qu'on pourrait regarder l'aristotélisme, voir comment se fait ce débrayage, ou ce progrès, ou cette fuite? Je crois que c'est la question posée. Comment, par rapport à la philosophie aristotélicienne, par rapport à la vision que nous avons de la réalité et de la personne humaine, comment pouvons-nous voir l'orientation pour entrer dans cette perspective hégélienne?
Ou exactement l'inverse, mais qui finalement revient au même. Comment est-ce qu'on peut faire décrocher le wagon du cercle? C'est finalement la même chose. Comment faire revenir un hégélien?
Comment faire revenir un hégélien dans quelque chose vers une position qui n'est plus hégélienne?
Oui, c'est finalement la même question. Mais...
dans votre même rêve.
Oui. Je prends des distances, mais c'est facile à dire.
C'est encore assez élémentaire. C'est même très élémentaire.
Donc, est-ce qu'on peut en sortir?
Mais parce que c'est au fond une naïveté, une pensée naïve. Accepter le mouvement d'existence, c'est une pensée naïve. Alors, il ne la refuse pas, il ne la rejette pas. Mais c'est pas la pensée, parce que là,
c'est une régression pour un hégélien. De le faire revenir au réalisme, ce serait une régression.
Sûrement. Ce serait une régression. Tu as raison de voir bien, quand on essaie de des gens qui ne sont pas purement hégéliens, mais qui seraient dans une perspective phénoménologiste, c'est une régression. Parce que c'est accepter, et c'est moi, je crois que le sophisme est là, c'est terrible, c'est accepter une pensée naïve. C'est la très grosse difficulté. Nous acceptons, nous, que l'intelligence est au service du réel, et ça, c'est de la naïveté prodigieuse. que la pensée est au fond au-dessus de l'être. La pensée comme telle est au-dessus de l'être. Alors accrocher l'être à la pensée et reconnaître que l'intelligence est faite pour connaître l'être, c'est la régression. Je crois. C'est une perspective. Il faut accepter vraiment un don dans la pensée pure, dans la conscience. C'est justement un petit peu là, c'est la question de la connaissance et de la conscience. Pour nous, nous faisons la distinction entre conscience et pensée. Est-ce que dans l'hégélianisme pur, est-ce qu'on peut faire encore la distinction ?
Le point de départ est sûrement au niveau de la conscience, le point de départ.
Le point de départ est la conscience, puisque c'est l'attitude réflexive. Parce qu'on ne peut pas avoir un autre point de départ que celui-là. Si on veut entrer dans l'hégélianisme, que d'identifier cette attitude réflexive du pour soi, l'être pour soi, qui est la conscience et qui, à partir de là, peut continuer ce progrès. Et donc, pratiquement, la conscience permet à la pensée d'avoir son développement propre. S'il n'y avait pas la conscience, il n'y avait pas ce développement propre. Et l'intelligence relative à l'être est une intelligence régressive, puisque c'est une intelligence qui ne peut plus se développer sur elle-même. Tandis qu'une pensée qui n'est pas à ce stade infantile se développe pour elle-même. Et c'est la pensée qui se développe en elle-même. Si je crois ce propre de la logique, ce que vous soulignez tout à l'heure, c'est le propre d'une pensée logique qui a son autosuffisance.
Qui sert d'imaginaire pour que justement ce possible qui est au-delà de l'être et de l'être soit substantiel. Quand vous trouvez le mot, vous voulez
substantiel,
c'est
oui.
C'est
ce qu'on
appelle pour nous. Oui, mais pour lui. Il part de la pensée théologique. N'oubliez pas ça. Je crois un tout petit peu comme Descartes. Il ne faut pas oublier ce fond théologique derrière. Et moi, je crois que c'est ça qui permet de comprendre. Ce fond théologique. S'il n'y avait pas ce fond théologique, on ne pourrait pas le comprendre. Et Descartes ne peut pas se comprendre en dehors du fond théologique. Il essaie de retrouver une certitude. Une certitude qui n'est pas celle de la foi. Donc, quand on part de là, c'est nécessairement un théologien. On est habitué à avoir des professeurs de théologie qui, quand vous posez une question, ah, c'est la foi, certitude de la foi. Ils sont agacés au bout d'un certain temps. Mais n'y a-t-il pas une autre certitude que celle de la foi ? Alors vous essayez de retrouver une certitude qui ne soit pas celle de la foi, qui soit une attitude purement sur l'auto-réflexion de soi-même, indépendamment de la foi. Alors, n'y a-t-il pas dans l'hégélianisme quelque chose d'analogue par rapport, parce que moi ça m'a toujours beaucoup frappé, cette espèce d'insatisfaction, de critique de toute la théologie de son temps. De mauvaise humeur vis-à-vis de la théologie de son temps. C'est cette théologie qui est naïve, scolastique, tout ça. Alors, on veut retrouver une espèce d'autosuffisance en soi-même, et par le fait même, qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans la théologie ? C'est la très sainte Trinité. Ne pouvons-nous pas découvrir en nous une Trinité vivante ? Qui soit de nous. Une Trinité qui naisse avec notre esprit. Alors on assiste à la naissance de la très sainte Trinité. On y assiste. C'est plus beau que tout. Vous croyez pas qu'il y a ça
derrière ? Oui, sûrement, oui.
Cette espèce de nostalgie profonde. Alors, leur ami Descartes, lui, il prend la certitude. Hegel, c'est pas la certitude. C'est le contenu de la théologie. Est-ce que vous avez fait allusion à
Saint-Anselme ? C'est à cheval entre Descartes et Saint-Anselme, sauf comme point de départ.
Mais je crois que Saint-Anselme, c'est par rapport à l'idée de Dieu, c'est par rapport à la Trinité.
Oui.
C'est pas l'idée de Dieu qui l'intéresse au sens absolu, c'est la Trinité.
Oui, oui. J'ai fait l'allusion à Saint-Anselme. Et en me disant, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, s'il en était resté à Saint-Anselme, donc au Dieu 1, comme point de départ, il n'y aurait pas eu cette nécessité de mouvement.
Et vous voyez, ce n'est pas l'existence de Dieu, Saint-Anselme, c'est l'existence de Dieu. C'est la vie de Dieu. C'est la vie trinitaire. Et c'est cette vie trinitaire qu'il faut découvrir au niveau de l'esprit. La très sainte Trinité, c'est une vie de le théologien le dit, c'est une vie de l'esprit. Et donc on va être dans cette recherche de la vie de l'esprit. Et tant qu'on n'a pas découvert cette vie de l'esprit et de l'esprit dans toute sa pureté, on ne peut pas être au niveau trinitaire. C'est l'acte pur dans la très sainte Trinité, c'est l'acte pur dans la vie trinitaire. C'est cette nostalgie profonde qu'il mène.
Et en même temps, je trouve que c'est très séduisant parce qu'en cours de route, il évacue toutes les contraintes de la foi, il évacue le mal, il évacue enfin,
tout ce qui n'est pas trinitaire.
Voilà, tout ce qui n'est pas trinitaire est beau, d'une certaine façon, avec un grand B, il évacue
toutes les limites.
Voilà.
Toutes les limites, c'est la libération de toutes les limites. Oui.
C'est vraiment la libération de l'homme face à
toutes les limites, ouais. Pour arriver à cette espèce d'idéalisation intérieure de la très sainte Trinité. Ouais. Une méditation trinitaire.
Ouais. Qui est très belle. Il a remplacé la raison par une méditation.
La raison. Il n'y a plus de quiétude. C'est une manière. C'est le laboratoire où on vit. Et on assiste à la Trinité, à la naissance de la très sainte Trinité. C'est extraordinaire.
Pour sortir de l'aspect justement de la naïveté de la philosophie réaliste, parce que c'est vrai que ça paraît très naïf.
Ah oui, c'est très naïf. C'est pour ça que c'est si difficile de l'accepter aujourd'hui.
Est-ce que c'est pas parce qu'on n'a pas réussi à atteindre le regard contemplatif philosophique, le regard aspect analogique?
Ah oui, sûrement.
Parce que c'est vrai, enfin, même nous, il y a des moments où on fait de la philosophie réaliste, on est rebuté par l'aspect justement trop simple, enfin, trop immédiat.
C'est trop élémentaire. Quand on dit que le jugement d'existence est au-delà de la critique, alors quoi? Alors donc, vous n'avez plus à avoir un statut scientifique. C'est vrai. La science est quelque chose de sourd, en premier. Et on a l'intelligence vit avant la science. Et c'est ça qu'au fond, ils sont tellement imbus de la science, tellement imbus de la critique ou ici de la réflexion consciente, qu'on ne peut pas accepter ça.
Et la manière, pour nous, la manière d'en sortir, c'est en fait d'arriver à un regard contemplatif en philosophie.
C'est la seule manière.
Est-ce que dans la synthèse dialectique, il n'y a pas une analogie avec la façon dans l'imaginaire de faire des synthèses comme ça?
Oui, je crois.
Et si les sensibles communs sont premiers, à ce moment-là, il y a un mouvement qui peut être perpétuel. Un mouvement constant.
Je crois que c'est très imaginaire. C'est lié très fort à l'imagination. Mais une imagination très, très spirituelle.
Très spirituelle, oui.
Très spirituelle. Mais c'est imaginatif.
Si on regarde la distinction entre appréhension et jugement, est-ce que ce n'est pas l'absolu du concept sur le jugement?
C'est-à-dire qu'il n'y a plus la distinction entre les deux. Hein. Alors, je suis d'accord avec vous que l'appréhension est première, c'est sûr. Quoique. Ce que disait tout à l'heure à propos de l'assimilation.
Je ne sais pas si on peut mettre un ordre.
Non, je crois qu'on ne peut pas mettre un ordre. Je crois que les deux sont.
Oui. L'ordre n'intéresse pas Hegel à ce niveau-là. C'est la synthèse, hein. C'est le résultat qui l'intéresse.
C'est pas l'ordre. La synthèse trinitaire.
Pour lui, le jugement, c'est une synthèse de deux.
C'est la division qui m'intéresse. Parce que s'il n'y a pas de division, il n'y a pas de dialectique. Il faut opposer, donc diviser, et autant que possible diviser quelque chose dont vous faites vous-même la synthèse. Et la synthèse est première à ce point de vue-là. Le tout est premier pour le retrouver au terme. Et vous divisez le tout pour le retrouver.
Oui,
constamment ça.
Oui.
Au niveau lui-même, au substantifié. C'est pas lui, il est perdu dans l'esprit.
C'est l'esprit.
Mais alors, son fondement repose sur l'esprit, c'est bien.
C'est l'esprit. Fondement. Comme si vous demandiez un fondement de la très sainte Trinité. Comme c'est premier, il n'y a pas de fondement.
C'est quand même un appel très fort, il me semble, un mouvement vraiment très fort vers une morale nietzschéenne, enfin, du surhomme.
Et en fond, le surhomme, pour lui, serait encore un retour vers l'homme.
Oui, alors du sur-Dieu, enfin.
Oui, du sur-Dieu, c'est-à-dire du Dieu trinitaire.
Voilà, oui, du Dieu trinitaire, on n'en sort pas.
Je crois qu'on ne peut pas sortir de là. C'est vraiment le Dieu. Il a été saisi, pris par ce point de vue de la Trinité, de façon telle que. Il s'est dit. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a quand même au point de départ un homme qui croit au point de départ. Et c'est pour ça que vous avez souligné le point de vue protestant très important. Donc ce n'est pas le point de vue de l'intelligence qui va redécouvrir, comme nous dirions, ce sera un scandale pour lui. C'est la foi, mais c'est une foi qui va être entièrement absorbée par l'intelligence, en réalité, dans l'immanence de l'intelligence. Mais c'est la foi qui est le point de départ, en réalité. C'est pour ça que c'est la Trinité.
Mais on ne peut plus dire que c'est une morale chrétienne, alors.
Quoi ?
On ne peut plus dire qu'il utilise une morale chrétienne.
Trinitaire, pas chrétienne.
Est-ce qu'il respectait l'inspiration ?
Dans quel sens ? L'inspiration artistique ou divine ?
Artistique.
C'est toute l'esthétique.
Oui, que j'ai pas du tout abordé.
Je vais prendre les gueules par l'esthétique. C'est une manière de prendre le train. C'est pas intéressé. Ça, je travaille l'esthétique parce que j'ai trouvé ça très intéressant et très séduisant. Parce que c'est très séduisant. Et au fond, je dirais que c'est peut-être là où il est le plus vrai.
Est-ce qu'il reconnaissait qu'il y avait des gens inspirés par rapport à lui qui n'est pas tellement finalement?
Vous ne pas inspiré. Alors, parce que. Terriblement inspiré. Il ne peut pas être plus inspiré que Dieu n'a pas simplement une idée. Vous savez, c'est une belle plus. Ce n'est pas votre inspiration. Mais c'est son inspiration. Mais c'est la très sainte Trinité. Je crois que c'est ça. Alors, évidemment, je comprends très bien que la prime de la vie qui dit aux inspirations, c'est ça.
C'est pas très poétique.
C'est pas poétique du tout.
Mais
c'est pas poétique du tout. Vous voyez ce que je disais en bon essai, je pourrais aller sur petit exemple, quand il dit que le chant du rossignol, si j'accepte le chant du rossignol, c'est parce que j'ai écouté la voix des jeunes. Ça, c'est très significatif. C'est lui. Lui, Trinité, un avec la Trinité dans l'esprit, qui mesure tout. La blague est très belle, c'est très vrai qu'il ne peut pas y avoir d'inspiration esthétique, artistique.
Nous voyons comme source d'inspiration l'intelligence liée à l'imagination. Pour Hegel, que peut-on dire ? Est-ce l'intelligence ou bien l'imagination qui l'emporte sur l'autre? C'est-à-dire, je voudrais savoir si l'intelligence emportait sur l'imagination fusée.
C'est la fusion des deux.
Et comment il assume la mort?
La mort, c'est la libération de l'esprit. C'est qu'au fond, il faut assumer la mort est une limite.
Le corps est une limite.
Oui,
c'est sûrement une...
Le corps est une limite.
La dernière étape de purification et de libération de l'esprit. et qui permet sûrement à Dieu d'être parfaitement lui-même dans l'âme séparée. Sûrement.
Et de d'être vraiment à ce moment-là dans l'état du non-conditionnement. On comprend que c'est un point terminal. Quand on considère qu'après les gueules, il ne peut plus y avoir. Si on est pris par l'égalisme, il n'y a plus rien à voir.
Ouais. Et c'est très risqué, enfin c'est très séduisant, comme vous dites.
Oui, c'est une très grande séduction.
Et moi, j'étais frappé en le regardant un petit peu, de voir comme j'ai en moi des sources d'égalisme, des germes d'égalisme. C'est extraordinaire. Hein.
C'est extraordinaire. C'est bon d'étudier ce point de
vue-là.
Parce qu'on dépiste ce qu'il y a d'égalien en nous.
Exactement.
Nous respirons l'égalisme. Si nous ne faisons pas une grande, si on pouvait jauger, n'est-ce pas, ceux qui entrent ici, le nombre de, je ne sais pas, le degré, dans le sang, parce que vous serez dans la tête, n'est-ce pas, combien il y a de l'égalisme que nous respirons avec son présent, je crois qu'on aurait un très grand usage. Et que la première chose serait la purification hégélienne que nous faisons. C'est pour ça que nous avons tellement de peine, au fond, d'accepter le jugement de l'existence dans toute sa pureté native. Parce que là, on est vraiment, une fois qu'on a compris le jugement de l'existence et la primauté de l'être sur l'intelligence, je crois qu'on échappe à l'hégélianisme. On ne peut plus y entrer. Mais ça met du temps.
Et la voie de sortie je me suis souvent dit, au fond, la seule voie de sortie, c'est l'adoration. C'est d'apprendre à un égalien.
Affectivement, c'est sûrement ça.
De se noyer dans l'adoration et d'en tirer lui-même le résultat affectif.
Effectivement, c'est l'adoration. Et le point de vue, non pas l'amitié.
C'est
nous. Oui, mais vous pouvez vivre également l'amitié. C'est pas drôle. Tout libre réellement, c'est ce que je disais tout à l'heure en disant, c'est votre bien que je sois là. Je suis un tyran, mais c'est je suis votre bien. Si je n'étais pas là, vous n'existeriez pas. Je suis un tyran, ça ne vous inquiétez pas. L'amitié ne peut être que tyrannique dans cette perspective. Mais la sortie, c'est pour ça que je prends les deux sorties, jugement d'existence et adoration. C'est les deux points par où nous touchons l'autre. Je crois qu'il n'y a pas d'autre issue, du côté affectif et du côté.
Oui. Quand on regarde les opérations de l'esprit, la seule manière de sortir, c'est la cause finale et l'acte. Si on regarde.
Oui, mais vous voyez.
Ce qu'on peut, ce que vous disiez ce matin, c'est qu'on ne peut pas, à partir d'un regard cryptique, arriver à un regard métaphysique.
Oui.
Mais on peut d'une certaine manière transformer le regard critique en ayant au départ un regard critique et puis en transformant par la cause finale et puis par là.
Mais il faut découvrir. Et quand vous êtes dedans, c'est très difficile. Et c'est pour ça que, vous voyez, quelle est pour nous la manière de découvrir la finalité ? L'adoration. Quelle est pour nous la manière de redonner de l'oxygène à notre intelligence ? Première respiration de notre intelligence.
C'est frappant de voir comme reprendre ce que vous disiez, c'est frappant de voir comme toute cette naissance dialectique chez Hegel est le résultat en fait d'une effectivité blessée. Enfin, il a été très blessé par la révolution, et c'est pour ça sûrement que c'est en restabilisant l'affectivité que l'intelligence peut de nouveau accepter de reprendre contact avec le réel.
Notre monde est un monde blessé.
Oui, ça s'applique à nous.
Un monde blessé terriblement. Et c'est pour ça qu'on a tellement de peine. Parce que quand on est blessé, vous dites faites un jugement d'existence, vous sortirez de votre angoisse. Et je ne peux pas y arriver. Je suis ligoté. Faites un acte d'adoration, mais je ne peux pas, je suis dedans. Si vous êtes en dehors, vous pouvez le dire, et il faut le dire, c'est évident. Mais c'est au moment où vous n'êtes plus angoissé que vous pouvez le faire. Et qu'il y a une lutte constante. que je crois que l'hégélianisme a engendré l'athéisme. Et ça, je crois que c'est vrai, que l'hégélianisme engendre, c'est le lien de l'athéisme, d'une façon très très forte. Par l'athéisme, je ne suis plus hégélien, au sens fort. On aurait dit à Hegel qu'il a engendré l'athéisme, il aurait été furieux de voir ça. Parce que c'est pas ça du tout qu'il veut. C'est pas du tout son intention. Son intention, c'est l'exaltation de l'esprit. C'est de voir que l'esprit est trinitaire. C'est magnifique, quoi. On ne peut pas exalter plus Dieu ou dire que l'esprit est trinitaire. Alors, comment se fait-il que de l'hégélianisme, on arrive à l'athéisme? C'est une manière de comprendre ce que c'est que l'hégélianisme. Comment l'hégélianisme engendre l'athéisme.
Et comment se fait-il surtout que cette pensée se soit tellement répandue alors que c'était si difficile à aborder, si difficile à lire.
Elle est schématique aussi. Oui. Elle est schématique. C'est le système et l'exaltation, moi je crois, qui est ça.
Il n'y a qu'à voir même comment on a beaucoup plus facilement tendance à se réfugier, nous, dans la méditation que dans la raison et dans le toucher contemplatif. Je crois que c'est devenu notre mouvement naturel de faire des relations.
Depuis le XVIe siècle, on ne parle plus de raison, on parle de méditation. On ne parle plus d'adoration. On parle de lecture de l'étude. Et on parle plus d'adoration. On parle de méthode de raison. C'est la méthode de méditation. Alors les choses très très simples et élémentaires, nous les avons oubliées. Et je crois qu'on a oublié que les choses élémentaires ont plus. Et on aime des choses qui sont plus compliquées. Nous sommes plus dans le monde du facturé.
Puis rester dans un système de relations, c'est quand même très sécurisant, parce que c'est soi, plutôt que d'accepter l'adoration ou l'autre comme autre. Je crois que moi j'ai vraiment l'impression que l'hégélianisme qu'on porte tous en nous est quand même le résultat d'une angoisse, enfin d'une peur de l'autre et que c'est vraiment en essayant de guérir l'affectivité qu'on peut, d'une certaine façon, assainir le terrain.
Et qu'on permet à l'intelligence d'être elle-même,
oui.
De redécouvrir son appétit naturel.
Voilà.